bienvenue sur les ondes de Fréquence Mistral. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une émission spéciale autour du festival de Chaillol qui se déroulera du 19 juillet au 11 août dans plusieurs communes des Hautes-Alpes. Pour nous parler de ce grand temps fort d'espace culturel de Chaillol et de sa programmation, nous accueillons Michaël Dian, directeur artistique de l'espace culturel de Chaillol. Bonjour Michaël Dian.
Bonjour.
Alors pour commencer, je vais vous laisser vous présenter un petit peu, vous présenter votre travail au sein de l'espace culturel de Chaillol.
Alors l'espace culturel de Chaillol, c'est une association loi 1901 qui existe depuis 28 ans maintenant. Donc on présente notre 28e saison. Temps fort, comme vous le disiez, c'est le festival de Chaillol, c'est la partie estivale de notre programmation. Mais ce temps fort est précédé d'une saison qui commence en octobre par des résidences, par un travail d'accompagnement des artistes, des compagnies qui viennent dans les Hautes-Alpes, au calme, pour approfondir leur travail, faire un geste, enfin voilà, répéter, travailler. Rencontrer aussi des habitants, on a beaucoup d'actions culturelles autour de ces résidences. Et ensuite, on a une partie de saison qui commence en janvier, de janvier à juin, avec toute une série de concerts, une fois par mois, 3 ou 4 concerts à la fin de chaque mois, qui présentent une proposition en itinérance sur le territoire, et là aussi accompagnée de beaucoup d'actions culturelles, de rencontres, de moments d'interaction entre les artistes et les habitants. Donc ça, c'est un peu la structure de notre saison, l'automne consacré aux résidences, janvier-juin, une série de concerts en itinérance à la fin de chaque mois, et enfin le festival, qui est vraiment le moment où tout s'intensifie, voilà.
Alors, pour rappel, ce festival, dans quel contexte a-t-il été créé ?
Alors, c'est un festival qui s'est créé, comme beaucoup de festivals, autour d'une bande de copains musiciens dont j'étais. J'avais des attaches familiales à Chaillol. Mes parents sont toujours de grands amoureux du champsort. Et en sortant du conservatoire, avec quelques amis musiciens, dont d'ailleurs Renaud Capuçon à l'époque, avec lequel je faisais de la musique de chambre, on décide de proposer une semaine de concert. Voilà, c'était très simple. On est venu à 8 ou 10 copains. On a joué de la musique de chambre tous les soirs. On mettait le chapeau à la fin et les gens étaient là et très heureux. Il y a eu beaucoup, beaucoup de monde tout de suite. Ça a commencé comme ça. Alors évidemment, entre ce moment-là et ce que nous faisons aujourd'hui, il y a 28 ans d'évolution, de maturation et d'affirmation du projet. Mais je pense qu'on a gardé cet esprit qui nous poussait à l'époque à tout simplement offrir ce qui était l'objet de notre passion, c'est-à-dire la musique, la produire et la transmettre. On en est resté finalement à cette double exigence, produire dans les meilleures conditions et transmettre le plaisir, les joies de la musique.
Et justement, ce festival en 28 années, comment est-ce qu'il a un peu évolué, devenir ce qu'il en est aujourd'hui, un festival qui se déroule sur quasiment un mois ?
Il y a eu beaucoup d'étapes, ce serait très long de raconter toutes les étapes, mais disons qu'il y a eu un moment la nécessité de se poser la question de comment on garantit la pérennité de ce festival, qui devenait de plus en plus important pour la vallée, parce qu'au début on était vraiment que dans le Champsaur, et comment on lui garantit aussi d'être porté avec une qualité de réponse pour les élus qui commençaient à s'intéresser, à mettre un peu d'argent public dedans, et puis pour les musiciens qu'on accueillait, ça devenait trop amateur pour pouvoir être pérennisé. Donc il a fallu penser la question de la professionnalisation, d'abord de manière très embryonnaire, et comme une petite graine qu'on sème, ben, on a cultivé cette graine, on a mis des tuteurs, on a pris grand soin, on a paillé, on a fait tout ce qu'il fallait pour que ça ne soit pas abîmé par les risques climatiques et tout ça. Bon, ça, c'est une histoire de culture, vraiment, au sens de... On cultive quelque chose auquel on pense qu'il faut apporter une grande attention, parce que ça contribue à la vie d'un territoire, en fait. Hein. La culture, de manière générale, c'est pas simplement un agrément, c'est une dimension de l'existence. Alors, c'est pas que la musique qu'on produit, c'est jusqu'à l'air qu'on respire, il y a quelque chose de très culturel là-dedans. Nos paysages, nos environnements sont des réalités culturelles, elles sont façonnées. Donc, à notre endroit, on s'occupe de musique et on essaye d'inscrire le geste musical ou la présence des musiciens dans la réalité vivante d'un territoire pour que les gens, finalement, y soient confrontés ou viennent s'y abreuver d'une certaine manière, de manière aussi simple et naturelle qu'on va acheter son pain chez le boulanger du village.
Et aujourd'hui, le festival, il a un rayonnement, certes, sur le département et sur la région, mais également nationalement. Il y a même France Culture, des grands médias qui en ont parlé. Comment on en est arrivé à avoir cette visibilité en dehors du territoire ?
Nous, on s'est toujours préoccupé de rendre un service à ce territoire, c'est-à-dire d'accueillir des artistes, leur offrir la meilleure condition, mais on s'est énormément concentré sur comment on fait pour être bon pour les habitants de ce territoire, pour les communes, comment on fait pour qu'on puisse offrir un service culturel de proximité de très très grande qualité. Et je pense que ce faisant, c'est-à-dire en étant très très concentré sur cette exigence-là, ça a fini par attirer l'attention, parce que c'est très particulier de faire ça. Moi, je ne me suis jamais occupé ou préoccupé du rayonnement du projet. Moi, je voulais que ça soit... C'était important pour moi que ça fonctionne pour les gens, les artistes et pour les gens d'ici, pour les touristes qui viennent aussi. Voilà. Et je pense qu'à force d'obstination dans cet objectif-là, les musiciens se sont rendus compte qu'il y avait quelque chose d'un peu particulier qui se passait, qu'on avait une exigence de relation avec les gens, aussi bien avec eux qu'avec les habitants ici, qui étaient impliqués, de plus en plus impliqués. Et petit à petit, cette manière de faire, si on peut dire, elle a fait parler d'elle. Elle a commencé d'intéresser, alors évidemment, quelques médias, d'abord locaux, ils sont toujours là, comme on le fait ce matin. C'est très important pour nous, les médias de territoire, c'est le point de départ de tout. Alors moi, je suis toujours très content d'aller sur France Musique ou France Inter, je le fais bien volontiers. Mais c'est comme la cerise sur le gâteau, si vous voulez, pour moi, c'est pas ça qui... Ça changera pas la réalité du projet. Par contre, d'avoir un suivi des médias de territoire, ce que les gens écoutent au quotidien, oui, c'est très important. C'est une espèce de système avec cercle concentrique, d'une certaine manière. C'est des échelles de rayonnement, mais on ne peut pas négliger le premier territoire, qui est le territoire de vie. Donc le reste vient... moi, je suis beaucoup entre Marseille, Paris et les Alpes, donc évidemment, je tisse des relations, parce que je vais écouter des choses à Paris beaucoup. Il y a aussi beaucoup de réseaux institutionnels, culturels là-bas, et voilà, que j'ai investi, que je connais et qui connaissent le festival. Donc les choses sont... C'est une dynamique, en fait.
Parce que la formule de ce festival, elle est assez unique. Est-ce qu'il existe des choses un peu similaires en France ou même en Europe ?
Oui, il existe beaucoup de festivals qui ont choisi l'itinérance, par exemple. Si on considère que c'est une des caractéristiques du festival de Chaillot, oui, bien sûr, il y a beaucoup de festivals qui sont itinérants, qui n'ont pas d'équipement. Après, avoir poussé à ce point l'itinérance, c'est-à-dire jusqu'au fait de devenant une scène conventionnée d'intérêt national, on est la seule scène conventionnée qui n'est pas adossée à un équipement, qui n'est pas adossée à un théâtre, et on continue de revendiquer cette singularité-là. Et l'autre caractéristique qui est bien repérée des institutions culturelles et des publics, c'est le choix de l'orientation artistique qui est fondée sur les musiques d'aujourd'hui, les musiques de création. On s'attache à donner de l'espace et du temps à des artistes qui produisent leur musique, que ce soit dans les nouvelles musiques du monde, le jazz de création, les oralités traditionnelles ou la création contemporaine au sens classique du terme. Et cette définition assez extensive de la création, elle est assez originale en réalité, parce qu'on a beaucoup de festivals qui sont des festivals spécialisés dans un genre. Festival de musique baroque, festival de jazz, festival de musique classique, festival de quatuor à cordes, etc., etc. Nous, on a fait ce choix d'être, de faire un trait de coupe dans le massif très très dense des musiques d'aujourd'hui, et de dire finalement ce qui est intéressant, c'est, mais comme dans le massif alpin, c'est de circuler, c'est de voir un point de vue comment on voit le Champsaur quand on est depuis le Vieux Chaillol, comment on le voit quand on est sur le Pic de Bure, enfin bref, c'est ça qui est intéressant, c'est de multiplier les points de vue sur le... Voilà, donc on en est là, et je pense que ça, c'est assez... alors unique, je sais pas, je suis persuadé qu'il doit exister des choses, mais assez singulier, oui, ça, c'est, certainement.
Et ça, on va y revenir un petit peu plus tard, cette notion aussi de dialogue, qu'il soit géographique ou entre public, entre œuvres. Alors, ce festival, on va rentrer un petit peu plus dans le détail. C'est un festival, ça demande, j'imagine, un travail assez titanesque en termes de coordination, d'accueil, de communication. Combien de temps il vous faut pour organiser une édition dans sa totalité, du moment où vous commencez à programmer les artistes jusqu'à l'ouverture du festival ?
Alors en fait, il y a plusieurs temporalités. Il y a le travail que moi je fais pour créer une programmation, pour composer une programmation plus exactement. Et là, il y a des programmes que j'ai repérés il y a 2 ans, 3 ans, dont je suis l'évolution, le mûrissement. Puis il y a des conversations avec des artistes qui s'échelonnent sur 6 mois, 8 mois, 1 an. Enfin, tout ça, c'est le fruit de très très nombreuses conversations, de beaucoup de musique écoutée en concert, en live. Il y a aussi une actualité de la création qu'il faut suivre. Schématisons un peu une programmation en termes de choix artistiques. Il faut un an et demi avec des choses qui viennent de plus loin. Voilà, moi j'écoute des choses tout au long de l'année. Ça fait partie des joies de ce métier, d'être très au contact, très près du travail des artistes. Après, je transmets, disons, les premiers éléments d'une programmation pratiquement 1 an avant à l'équipe. Je dirais que 80% de la programmation est décidée quand le festival de l'année en cours s'achève. Et il reste toujours 20% parce qu'il ne faut pas tout figer, il faut pouvoir réagir à des choses qui sont de très belles occasions qui émergent là, parce qu'une actualité discographique ou une création qui... Voilà. Donc je me laisse un peu d'espace pour réagir à des très très belles choses, des belles rencontres. Et ensuite, effectivement, il y a un travail considérable, ça vaudrait le coup d'ailleurs d'y consacrer une émission entière sur ce que fait l'équipe. Parce que moi je travaille beaucoup, mais l'équipe aussi travaille énormément, et dans des registres très complémentaires du mien, et absolument indispensable. C'est un ouvrage d'une finesse, c'est une dentelle extraordinaire. En termes de communication, de coordination sur le territoire, d'accompagnement des publics, de production, c'est-à-dire de relations contractuelles avec toutes les parties prenantes. C'est une somme, hein, vraiment, et beaucoup, beaucoup de compétences et de dévouement et de passion aussi de la part des 5 autres membres de l'équipe.
Je reviens un petit peu à la programmation en termes de dates. À quel moment choisit-on certains artistes et certaines propositions artistiques plutôt pour la saison artiste en présence et d'autres plutôt pour le festival ?
Ah oui, c'est intéressant cette question. Parce que je me la pose à chaque fois. Je ne sais pas si j'ai une règle. je crois pas. Il y a un moment où on se dit, tiens, c'est un format qui convient bien à février. Parce qu'on est dans une forme d'intimité avec les habitants. Donc on n'a pas forcément envie de quelque chose de tonitruant. On a envie de quelque chose que, voilà, qui soit un peu dans le climat que moi je connais bien. C'est aussi ça de connaître un territoire, c'est de savoir c'est quoi la lumière en février, c'est quoi la manière qu'on a de bouger nous-mêmes dans ce territoire. On n'est pas pareil en mai quand le printemps arrive qu'en février où on se rétracte un peu. Donc c'est toutes ces petites choses. Et puis après il y a des choses très très prosaïques. Sandra qui s'occupe des productions me dit non, on ne peut pas mettre ça en février avec un piano, c'est pas possible, c'est trop compliqué, le piano, la neige, tu comprends. Bon. Donc c'est à la fois une espèce d'intuition de dire ça serait quand même vachement bien d'avoir ça en février, ça va nous réchauffer l'âme, et en même temps de, ok, c'est possible parce que c'est pas non plus techniquement trop compliqué au regard des conditions de météo. Les églises sont pas chauffées ou très peu chauffées à cette période, enfin, plein de choses qui font qu'à un moment on se dit, bon, ça c'est pas mal à cet endroit.
Je reviens à la diversité artistique aussi des propositions que vous portez. Effectivement, on a commencé un petit peu à en discuter tout à l'heure, il y a des choses très variées, on disait du jazz de création, des nouvelles musiques du monde. Pourquoi justement ce choix, en fait, pourquoi est-ce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur d'avoir cette diversité de propositions ?
D'abord parce qu'on a une responsabilité sur ce territoire, on a une scène conventionnée, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a une deuxième dans le nord du département, le Théâtre du Briançonnais, qui fait un travail superbe. Et donc, on doit offrir une diversité aux habitants. Admettons que je sois passionné par la musique baroque, je ne vais pas programmer que de la musique baroque. Enfin, je dois avoir aussi une certaine idée de ce qu'attend, de ce qu'ont envie d'entendre les publics ici, les habitants. Même si on les emmène sur des voies, parfois, des chemins de traverse. Ce n'est pas ce qu'on n'entend pas au Festival de Chéol, ce qu'on entend en ouvrant la radio sur les chaînes de grande écoute. Donc, c'est plutôt des formats... des gestes de grande qualité, presque de l'artisanat d'art. C'est comme si vous allez réserver une table dans un restaurant qui fait un travail très très spécifique avec des produits locaux, avec un soin dans le choix des produits, la manière de travailler. Enfin, voilà, c'est un certain travail d'élaboration de la part des musiciens. C'est ça qu'on privilégie. Après, la diversité, elle vient du fait que la création, elle existe dans beaucoup de champs musicaux. La création, c'est pas que la musique contemporaine. C'est bien sûr la musique contemporaine, mais est-ce à dire que les jazzmen ne créent pas de musique nouvelle ? Non. Ou les musiques du monde sont en train de s'hybrider autrement, en train de... Toujours, la tradition se renouvelle. Il n'y a pas d'un côté la tradition et de l'autre côté la création. C'est un mouvement dialectique entre des choses dont on hérite, qui sont... conservés, qui sont approfondis, étudiés, puis la manière de, en tant que musicien vivant aujourd'hui, de redéployer ces ressources-là dans un geste qui est celui que chaque musicien porte intimement. Donc, en fait, c'est un mouvement dialectique, la création. Donc, c'est ça qui m'intéresse, moi, c'est de montrer le paysage et pas simplement dire, ben voilà, moi je suis un passionné des fonds de vallée, je vais prendre un public et je vais leur montrer tous les fonds de vallée. Non, il y a aussi des points de vue. C'est ça, c'est encore une fois, on revient sur cette idée de, on connaît mieux un relief quand on a beaucoup marché dedans et quand on multiplie les points de vue. Les points de vue, c'est les points d'écoute, en fait.
Justement, ça rejoignait ma question d'après. Sur ce dialogue que vous proposez entre artistes, esthétique et territoire, et même entre continents, parfois.
Oui.
C'est également ce que vous faites tout le reste de l'année avec Artistes en Présence. Alors, cette année, vous proposez environ 15 concerts, on va dire 15 propositions artistiques. 5 sont des créations. Est-ce que ce sont les artistes auteurs de ces 5 créations ont-ils bénéficié de résidence avec l'espace culturel de Chaillol, ou est-ce qu'ils ont créé aussi leurs œuvres ailleurs ?
Alors, il y a tous les cas de figure. On pourra détailler tout à l'heure, mais il y a des artistes qui ont bénéficié d'un soutien qui peut prendre plusieurs formes. Ça peut être du temps de résidence dans le territoire, comme je l'évoquais tout à l'heure. Ça peut être un soutien à la production, en fait, qu'on investit de l'argent pour pouvoir accompagner financièrement le projet ou la compagnie qui porte le projet. Il y a aussi des commandes à des compositeurs à la demande de musiciens qui avaient envie d'ajouter à leur répertoire une œuvre nouvelle. Donc, ce que je viens de citer là, c'est les 3 modalités d'intervention pour le soutien à la création. Et en fait, ces modalités-là, elles sont permises parce que nous avons un soutien déterminé de l'État, du ministère de la Culture, qui nous confie cette mission aussi. On n'est pas simplement un lieu de diffusion et d'animation du territoire avec la musique. Et aussi parce que la SACEM est extrêmement présente dans le projet et nous apporte un soutien significatif pour qu'on puisse financer ce soutien à la création.
Et cette année, vous proposez 28 dates au total, je les ai comptées.
Ouais.
Est-ce que 28 dates pour 28 années, ou est-ce que c'est quelque chose de complètement fortuit ?
Non, mais c'est une très belle... Ben on va garder cette chose-là. Oui, c'est peut-être... c'est une très belle coïncidence. Mais non, j'y avais pas pensé. Non, on est sur une période qui est légèrement inférieure à 4 semaines, en fait. Et après, il y a parfois plusieurs propositions dans une journée. Et voilà, mais 28 dates pour 28 années, c'est très bien. Ouais.
28 années, bientôt 30. Est-ce que 30, vous préparez déjà dans votre tête au moins la 30e édition, ce 30e anniversaire ?
Oui, alors déjà la 29e est en train d'être, elle s'élabore. Il faudra que je la présente, comme je vous le disais à l'équipe tout à l'heure, d'ici quelques semaines, en tout cas dans ses grandes orientations. Et sans doute qu'il faudra faire quelque chose pour les 30 ans, oui. On avait fait quelque chose pour les 15 ans. On avait sorti un très joli livre avec le soutien du département et à l'époque du Centre pour l'oralité alpine. On avait sorti un livre qui s'appelait 15 années d'action culturelle en territoire de montagne, 15 portraits. Le festival par ceux qui le font. Enfin, c'est un très joli livre qu'on trouve encore, je crois, en tout cas que moi je continue de donner à ceux qui s'intéressent. Je pense qu'il y aura quelque chose. Je pense qu'il faut ramasser un peu de mémoire de tout ce qui s'est passé depuis 15 ans, et de 30 ans bien sûr, mais depuis 15 ans. Parce qu'entre la naissance et la 15e année, il s'était passé beaucoup de choses. Et on était parvenu à un certain niveau de reconnaissance. Entre la 15e année et la 30e année, c'est une autre étape. C'est celle de l'institutionnalisation, c'est celle de l'affirmation dans le paysage régional et national. C'est aussi le fait d'être devenu un acteur identifié de la création musicale en France. Donc tout ça se raconte, à mon avis. Il faudra faire un geste de cette nature. Et puis on a de très très belles photos d'Alexandre Chevillard depuis 15 ans qui suit le projet. Il y a matière à produire quelque chose.
Et entre la 30e et la 45e année, qu'est-ce qu'on vise ? Écoutez,
je ne sais pas, moi je n'irai peut-être pas jusqu'à la 45e année parce que je serai peut-être à la retraite à ce moment-là, mais j'espère en tout cas que le projet me survivra, j'en suis certain, parce que c'est aussi ce que garantit une appellation, un label, c'est que voilà, la chose est suffisamment installée et soutenue pour qu'on puisse... Mais honnêtement, imaginer sur 15 ans, c'est de la science-fiction, mais il nous reste des choses à accomplir très certainement. Sur les 10 ans qui viennent, il y a des orientations qui n'ont pas été épuisées du tout, et des projections aussi que j'aimerais beaucoup accomplir dans le territoire et au-delà. Donc on a encore des idées, ça va.
Et parfois, c'est des choses auxquelles vous pensez, justement, une relève, quelqu'un qui un jour pourrait reprendre. Vous avez des gens autour de vous qui un peu pourraient faire le travail avec vous?
Oui, en tout cas, il y a des musiciens que j'ai vu grandir et qui aujourd'hui sont en pleine maturité et qui pourraient tout à fait prendre la suite de la direction artistique que j'occupe depuis la création. Après, il y a une procédure. C'est comme une scène nationale ici, dont le recrutement se fait par appel à candidature, un jury avec l'État, la région, les financeurs. Enfin, c'est un process qui n'est pas simplement la décision. D'ailleurs, je n'aurais pas mon mot à dire ou ma part à donner dans un processus de recrutement parce que c'est pas la procédure, c'est ça qui est très bien, c'est pas mon outil, c'est un outil dont j'ai accompagné la naissance et la croissance, mais qui ne m'appartient pas, et c'est tout à fait bien.
Alors on va commencer à aborder le vif du sujet, donc la programmation de ce festival. Alors il va démarrer le 19 juillet donc avec un duo qui s'appelle Clément Janinet et Adama Sidibé. Alors qu'est-ce qu'ils vont nous proposer ?
Alors en fait c'est un duo qui est aussi un quintet en fait, parce que Clément Janinet c'est un musicien de jazz, compositeur, un très très beau musicien qui a une grande passion pour les musiques d'Afrique de l'Ouest, toute la culture mandingue. Et il est allé très très souvent depuis des années dans cette région, dans laquelle il y a une diversité de traditions musicale d'une richesse incroyable. Et il y a rencontré Adama Sidibé. Adama Sidibé, c'est un violoniste. Alors lui, il ne joue pas le violon auquel on pense, le violon de Vivaldi. Il joue un violon qui s'appelle le soku, qui est un instrument qui est assez rudimentaire dans sa conception. C'est une calebasse avec une peau de chèvre tendue et un manche avec une corde unique. Et c'est un instrument frotté, à corde frottée, qui a un son un peu rêche, un peu très granuleux. Et en fait, ils ont énormément dialogué ensemble, musicalement. Ils se sont rencontrés, ils ont fait énormément de... C'est comme une conversation, mais en musique, pour faire connaître l'un et l'autre la musique de l'autre. Et puis Clément est retourné en France, il a écrit un répertoire qui est magnifique, qui est maintenant porté au disque, qui s'appelle Concerto pour Soku, qu'il a écrit pour Adama Sidibé, donc il sera sur scène, et son quintet. Donc on est à la fois dans du jazz de création, avec évidemment une ressource traditionnelle mandingue extrêmement perceptible, et on a la chance d'accueillir aussi en invité Madamba, qui est une des grandes chanteuses de cette région, qui vient sur quelques titres. Donc voilà, c'est un concert d'ouverture qui porte bien son nom, c'est-à-dire que c'est l'ouverture du festival, mais c'est l'ouverture dans le sens de quelque chose qui ouvre sur des horizons culturels, sur cette possibilité d'avoir en soi une ouverture pour laisser une place à la culture de l'autre. Enfin, on est sur des sujets un peu quelle place pour la réciprocité dans l'échange, en fait. Et ça donne une musique superbe, vraiment, dont on peut écouter un extrait tout de suite.
Tout à fait, nous allons écouter un premier extrait donc, de Clément Janinet et Adama Sidibé. Donc, on les retrouvera le 19 juillet et le 20 juillet donc à Saint-Bonnet et à Talard. Thank you.
lode jommeni da dogado tungarangi nteri jodode parivili jula jodo nteri jodode bamanyare jula jodo nteri jodode monakiri jula jodo nteri jodode jommeni da dogado Balema jugute kwalisona jugute kwalisona furuke jugute kwalisona jugute kwalisona furumuso jugute kwalisona neteri jodone ngulo fonyago jodo
Le 22 juillet, on réembraye avec une seconde date. Ça va aller très vite, nous avons des dates quasiment tous les jours. Alors là, on ira direction Furmillier et Roche-Brune pour retrouver le duo Ourika et leur projet Rivage.
Alors c'est un peu dans cette continuité-là. Ce sont deux violoncellistes très jeunes, ils n'ont pas 25 ans tous les deux. Ils sortent du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Et donc Clémence Mepsou et Valentin Hoffmann sont deux violoncellistes qui évidemment ont été formés dans la grande tradition du violoncelle français. Alors, on a deux très très grands maîtres, une grande école du violoncelle en France. Et donc ils sont des musiciens accomplis, des chambristes, des solistes. Et il se trouve qu'ils ont aussi une rencontre, un choc avec les musiques marocaines, les musiques traditionnelles du Maroc. Il se trouve que le père de Clémence est marocain et donc elle a régulièrement été là-bas, notamment près de l'Oued Ourika, qui est vraiment la région dans laquelle son père avait ses racines. Et elle a rencontré des musiciens, elle a appris cette musique-là en transmission orale. C'est une musique qui ne s'écrit pas, qui ne se transmet pas comme nous le faisons en Europe, c'est-à-dire avec une partition. Et donc, à force d'imprégnation, d'immersion, elle a commencé un travail d'improvisation plus approfondi, d'écriture, au sens d'une stabilisation de cette improvisation, avec Valentin Hoffmann, qui est un musicien aussi de très grande qualité, avec lequel elle entretient une complicité musicale extraordinaire. Ils ont un répertoire comme ça d'une heure, qui est un grand voyage. Alors, Rivage, parce que ça ne s'est pas simplement arrêté au rivage de la côte méditerranéenne d'Afrique du Nord, mais on va dire le bassin méditerranéen, la Grèce, l'Anatolie. Enfin, on est vraiment dans une approche très ouverte des musiques méditerranéennes, avec cette spécificité que ce sont des musiciens qui ont une maîtrise de l'instrument extraordinaire venant du conservatoire, mais une manière de jouer cet instrument qui laisse une très grande place aux modes de jeu qui, eux, sont clairement issus des traditions orales non-européennes, donc avec les microtonalités, avec une rythmique et des matières qui ne sont pas du tout celles qu'on privilégie dans les musiques, on va dire, classiques ou romantiques. C'est très, très beau.
Alors, on va peut-être pas écouter tous les artistes de la programmation, parce que sinon, on n'aura pas forcément le temps. Alors, on va passer à la proposition suivante, qui sera le 24 et le 25 juillet. Nous retrouverons Noémie Boutin et Antoine Choplin pour le projet À Contre-Courant.
Alors, c'est l'idée d'un accueil en résidence. On parlait tout à l'heure des formes de soutien à la création. Ici, nous avons deux artistes qui travaillent depuis longtemps ensemble. Noémie Boutin est une violoncelliste très repérée, remarquée, qui travaille beaucoup dans la création musicale. Elle a passé commande à beaucoup de compositeurs, compositrice de son temps, et on l'a souvent accueillie au Festival de Chaillol. Et elle m'a fait rencontrer Antoine Choplin, dont je ne connaissais que le travail d'écrivain, je ne le connaissais pas encore. Et c'est un écrivain marcheur, fait partie de ces créateurs qui trouvent dans la marche et dans la pratique de la montagne, c'est un montagnard de haut niveau, l'inspiration et le rythme à son écriture. Il écrit un livre qui est très beau, que je recommande à tous les auditeurs, qui s'appelle « À contre-courant », qui est le récit de son expérience de la remontée de l'Isère jusqu'à sa source, depuis Grenoble jusqu'à sa source. C'est un très très beau livre, qui est une forme de méditation lente et sur les richesses de qu'on perçoit, parfois de manière étonnante, parce que l'Isère passe parfois sous l'autoroute, et donc il a vraiment remonté toute l'Isère, et c'est très très beau de voir comment on peut percevoir ces beautés-là quand on se met à ce rythme-là. Et donc avec le Festival de l'Alpage, qui est porté par la communauté de communes du Champsaur-Valgaudemar, avec lequel on est partenaire depuis 3 ans, on a eu cette idée de leur donner un espace-temps de travail pour croiser un peu ces enjeux-là, la musique de création et le regard d'un écrivain-poète sur le territoire. Et il y aura plusieurs moments, dont un concert, mais aussi une remontée du Drac. Alors, on ne va pas remonter le Drac jusqu'à sa source, mais voilà, pour essayer de mettre en résonance l'écriture d'Antoine avec les lieux qu'on trouve dans le Champsaur.
On a abordé 3 dates du festival et déjà c'est une belle navigation, un beau voyage qui est déjà parti de l'Afrique du Nord, l'Afrique subsaharienne et maintenant l'Isère. Ça donne déjà une idée de la diversité de propositions qu'on peut y trouver. Alors pour la 4e date de ce festival, nous allons retrouver Jean-Marie Machado et Didier Itursari pour un projet qui s'appelle Loua.
Oui, alors c'est une date que je suis très fier d'accueillir parce que Jean-Marie Machado, c'est un des grands pianistes, compositeurs de jazz, quelqu'un qui a une carrière assez considérable derrière lui. Il est loin d'avoir terminé sa carrière, mais enfin c'est quelqu'un qui a marqué le paysage français et européen du jazz. C'est quelqu'un qui dirige sa musique depuis le piano. Il a créé beaucoup de grands orchestres. C'est quelqu'un qui est très inspiré à la fois par les musiques méditerranéennes et il a une grande culture classique. Donc c'est un fou d'Albéniz, de Manuel de Falla, de Enrique Granados, enfin tous ces grands compositeurs du début du XXe siècle espagnol, qui ont d'ailleurs beaucoup inspiré les compositeurs français, Ravel, Debussy et autres. Et donc on sent une grande érudition, un grand amour de ces musiques-là, et on entend tout ça dans sa musique. Dans ses orchestres, il réunit des grandes personnalités, des personnalités fortes, qui sont des grands improvisateurs, des gens qui sont très robustes dans tout ça. Et c'est comme ça qu'il a rencontré Didier Itursari, qui est un accordéoniste basque, lui aussi grande carrière, beaucoup beaucoup de coopération, de collaboration incroyable. Et leur duo existe depuis quelques années, ils ont un disque Loua qui est absolument magnifique. C'est la première fois que ces deux musiciens viennent dans les Hautes-Alpes, et je suis très heureux de... C'est le début de quelque chose, je pense qu'on les retrouvera dans d'autres configurations, mais c'est vraiment un moment fort de la saison. Et une joie d'avoir Didier Itursari et Jean-Marie Machado dans la programmation. Ouais.
Eh bien, on va illustrer tout ça tout de suite avec un petit extrait de ce projet Loua.
Thank you.
venez d'écouter un petit extrait du projet Lua. Vous retrouverez Jean-Marie Machado et Didier Itursari les 24 et 25 juillet à Talar et à Chaillol. Puis, pour la cinquième date du festival, nous irons direction Saint-Julien-en-Beauchesne et Chaillol à nouveau, dans l'église du hameau de Saint-Michel, pour retrouver le quintet Calypso et le projet Journal de bord.
Oui, alors là, on est dans la musique de chambre. C'est le retour aux premiers amours du festival. C'est la musique de chambre classique, romantique, moderne. Il y a quelques propositions de musique classique, bien sûr, dans la programmation du festival. Celle-ci est une proposition très originale parce que c'est une formation qu'on entend peu, à savoir une harpe, une flûte et un trio à cordes, violon, alto, violoncelle. C'est un répertoire assez restreint, il existe peu d'œuvres pour cette formation-là, mais ce sont des œuvres magnifiques. Et ce programme est construit par l'ensemble Calypso autour d'un quintet de Jean Cras. Alors Jean Cras, c'est quelqu'un qu'on redécouvre maintenant, compositeur important du début du XXe siècle, qui a eu une double carrière, très belle carrière de compositeur, très reconnu de son vivant, mais aussi une carrière de marin. Et c'est quelqu'un qui a laissé une trace dans l'histoire de la navigation, parce qu'il a inventé une méthode de calcul des trajectoires avant que le GPS n'existe, qui porte encore son nom, le mode de calcul Cras. C'est amusant, parce que ça fait partie des compositeurs qui ont eu une double vie. Et sa musique est évidemment, alors c'est un breton, sa musique est très empreinte de la force des éléments, des embruns, du grand air, enfin voilà, c'est une musique qui respire le large, et c'est un merveilleux quintet on a complété le projet, enfin le répertoire avec évidemment le trio de Debussy qui est pièce centrale, alors pour harpe, flûte et alto. Une commande à Aurélien Richard, qui est un jeune compositeur très talentueux, qui va écrire une pièce pour le quintet, voilà. C'est musique française d'aujourd'hui et du début du siècle, c'est caractérisé par énormément de couleurs, de timbre, de richesse d'inspiration mélodique, enfin c'est absolument délicieux. On peut écouter un extrait du quintet, alors qui n'est pas interprété par le quintet Calypso, mais qui est interprété sur France Musique par l'ensemble Le Bateau Ivre.
Après ce voyage, notamment en mer, et cette proposition très riche, on va avoir une proposition de Samuel Bricot qui, elle aussi, nous amène vers quelque chose de respiratoire, on va dire. C'est souffle 1.
Oui. Alors souffle, il y en aura 3, souffle 1, 2 et 3. C'est une proposition nouvelle. Tous les dimanches, on reprend son souffle, c'est ce qu'on s'est dit. Le dimanche, c'est fait pour ça. Et donc, j'ai eu cette idée d'inviter 3 flûtistes merveilleux, très différents dans leur approche de la flûte. Ils jouent chacun une flûte différente et des répertoires très différents. Donc le premier dimanche, c'est en effet Samuel Bricot, qui fait partie de l'ensemble Calypso, qui va jouer de la flûte bansuri, qui est une flûte indienne, donc une proposition autour des musiques indiennes, très méditatives. Pas seulement, il y aura d'autres, c'est un grand curieux, Samuel, qui navigue aussi beaucoup dans les musiques celtiques, dans les musiques irlandaises, dans les musiques, voilà. Donc, mais il y aura cette flûte bansuri qui est très caractéristique et qui nous emmènera très très loin.
Des ragas indiens, notamment.
Exactement, ouais. Ensuite, on aura Isabelle Courroy, le dimanche d'après, qui est elle une des grandes flûtistes, alors pour le coup de renommée internationale, qu'on a souvent accueilli à Chaillol, qui joue les flûtes cavales. C'est des flûtes obliques qui se jouent de manière diagonale, comme ça. Il en existe beaucoup dans l'Europe centrale. Et elle nous proposera un répertoire très en relation avec ses recherches depuis 30 ans, parce que c'est quand même quelqu'un qui a marqué son instrument. Et enfin, le dernier dimanche, on va retrouver Benjamin Melia. Benjamin Melia était une personnalité musicale très attachante de la région, les Beatnice. C'est un des grands spécialistes des flûtes galoubées tambourins, donc les cultures provençales, les fifres et tous ces instruments de tailles différentes, qu'il joue avec une extraordinaire virtuosité et surtout une connaissance incroyable de ce qu'il y a derrière, ces musiques de danse, de chant, de cérémonie. Et on est vraiment dans la culture provençale la plus caractéristique, mais qui est transmise avec beaucoup d'invention et beaucoup de liberté. Voilà, c'est un très beau musicien.
Un très beau panorama de ce qu'on peut faire avec une flûte et son souffle. Donc ce seront trois dates que vous pourrez retrouver respectivement les 28 juillet, 4 août et 11 août, donc des dimanches pour respirer. Nous revenons au 29 juillet avec un projet intitulé Bolo, qui est interprété par Séni Camara et Sylvain Rabourdin, un projet afro-folk blues.
On creuse un peu cette résonance Afrique subsaharienne. Séni Camara, je l'ai découverte à Paris, dans la première partie d'un concert pour laquelle c'était pas elle que je venais écouter, mais j'ai été frappé par ce duo avec Sylvain Rabourdin. Séni Camara, elle est vraiment issue de cette tradition musicale qui est liée aussi au rituel de guérison, en fait. Elle a vécu pas très loin de Bamako, auprès de sa tante, qui était une guérisseuse et qui guérissait par le chant. Et donc, elle est complètement imprégnée de cette musique-là. Elle s'est mise à la kora, ce qui est déjà en soi une première transgression, parce que c'est un instrument qui est traditionnellement réservé aux hommes. Elle est une des rares femmes à en jouer. Et donc, elle chante l'amour, la peine, les joies, l'espoir, respect aux enfants, la condition des femmes. Enfin, c'est une très belle voix. Sylvain, à ses côtés, est un violoniste comme Clément Janinet, qui est un grand amoureux des musiques africaines et qui les joue très bien. Ils ont un duo d'une grande finesse, délicatesse, avec beaucoup d'écoute entre eux. Et pour moi, c'était évident que ça pouvait faire un contrepoint et une très belle proposition dans cette programmation.
Eh bien, on va tout de suite écouter un extrait de ce projet Bolo par Séni Camara et Sylvain Rabourdin.
Yeah.
Alors, vous venez d'écouter un petit extrait de Bolo, le projet de Sémi Camara et Sylvain Rabourdin, qui sera présenté les 29 et 30 juillet à Rambaud et à Saint-Maurice en Val-Gonnemar. Le 30 juillet, il y aura un second concert ce jour-là, qui se déroulera à la cathédrale de Gap, et ce seront les harmonies poétiques et romantiques de Lucie Dalla.
Lucie Dalla, c'est une merveilleuse musicienne organiste. Elle est déjà dans une carrière très affirmée. Elle est notamment organiste en résidence à Radio France, ce qui n'est pas tout à fait rien, entre autres choses. Elle a composé un répertoire pour faire vraiment sonner cet orgue de Gap, qui est un très bel orgue, c'est un orgue Dunant, facteur Dunant, qui est assez réputé. Cet orgue a été inauguré par Pierre Cochereau, ce qui n'est pas rien non plus, c'est un très très grand organiste qui a été le maître de beaucoup. Et donc, elle a composé un programme entre grandes pages romantiques pour piano, transcrites pour orgue, entre pièces originales aussi pour cet instrument, avec aussi des compositrices qui seront présentes, qui sont toujours à découvrir ou à redécouvrir, et une pièce en création qui a été commandée spécialement pour ce récital. Voilà, tout ça va donner un répertoire très éclectique, très beau, que j'ai beaucoup écouté une fois qu'on a stabilisé le programme et qui fonctionne très très bien.
Et donc on le disait, ça sera une création comme le concert que nous retrouverons le lendemain, le 31 juillet à Tallard, Nature, The Gentlest Mother par Juliette Raffin-Gay et Louise Achilly.
Oui, voilà encore une proposition classique, il y en a quelques-unes. C'est un duo, une chanteuse, une soprano, une merveilleuse voix et une pianiste, Louise, qui fait aussi une carrière en solo et en musique de chambre. Je les avais écoutés à Marseille, à l'Opéra, et j'avais été vraiment touché par l'évidente complicité de ce duo et la qualité de la musique qu'elles défendaient. Ça fait partie des... Voilà, on parlait tout à l'heure des conversations, on a eu, je sais pas, une dizaine de conversations depuis un an et demi. C'est un programme qui vient qui aurait dû être présenté l'année dernière, on n'avait pas trouvé de date, enfin bref, il y a eu plein de reports pour des raisons d'agenda. Et là aussi, on est sur un programme qui finalement tournera autour de mélodie française, mélodie anglaise, de compositeurs français, de compositeurs anglais, autour de la poésie d'Emily Dickinson, qui fait un peu le lien, avec une commande à Fabien Touchard aussi, qui est un compositeur qu'on aime beaucoup, qui a une inspiration très, encore une fois, très lyrique et très personnelle. Voilà, c'est une très belle proposition, avec beaucoup, beaucoup de... un attachement aux mots et à la poésie, en fait. C'est autant un tour de chant qu'une lecture de très beaux poèmes, en fait.
Et justement, la littérature et la poésie sont présents dans plusieurs propos de ce festival. C'était un choix aussi de mettre en avant ces collaborations, ces dialogues entre littérature et poésie et musique.
Souvent, la musique vient enluminer les mots, que ce soit dans les musiques populaires, c'est une évidence. Si vous écoutez du tango ou des musiques, on va parler tout à l'heure de fado. Le fado, c'est exactement ça. C'est aussi bien une poésie populaire qu'une musique.
Alors, nous allons clôturer ce mois de juillet du Festival de Chaillol. Alors, nous allons passer au mois d'août avec un premier spectacle de jazz de création, Arc Fiction, par Herman Mehari et Alessandro Lanzoni.
Oui, alors c'est un duo que j'ai rencontré à Paris, dans ce qu'on pourrait appeler un forum, un salon. Et ces deux musiciens sont venus me voir en marge de ces échanges et très simplement m'ont dit « voilà, on a entendu parler du festival ». Est-ce qu'on peut vous donner notre disque ? Je me dis, bien sûr, bien sûr. Et en fait, j'ai écouté le disque, je les ai rappelés tout de suite. Je suis retourné les voir en concert, encore récemment, là, à Paris. J'ai écouté au Sunside Herman Mehari, qui est un trompettiste extraordinaire, avec une signature sonore évidente. Enfin, c'est quelqu'un, on le reconnaît tout de suite. Et donc, son disque avec Alessandro Lanzani, là aussi, c'est un peu comme le duo avec Didier Tursari et Jean-Marie Machado. C'est une conversation très élevée. C'est un peu comme des enfants qui jouent, si vous voulez. Le jazz, c'est un peu ça. C'est deux enfants qui, pour jouer, se donnent quelques règles simples. On va dire que tu es ci, et on va dire que moi, je suis ça. Et du coup, cette petite règle de base permet d'engager le jeu. Au fond, le jazz, c'est un peu ça. C'est-à-dire, il faut quelques principes d'écriture ou de principe de composition un peu formel, voilà, pour ensuite engager un mouvement, et ce mouvement joue de ses contraintes en s'y soumettant, parfois en les dépassant d'autres fois. Donc voilà, c'est un très beau répertoire, c'est leur musique, et c'est une petite pépite à découvrir. Et puis le duo piano-trompette, pas si fréquent que ça, souvent on a piano, contrebasse, batterie et une trompette, mais là on est vraiment sur la forme, c'est presque de la musique de chambre en fait, hein. C'est de la musique de chambre, de création, de jazz, on est dans ce...
Et on rejoint toujours cette idée de conversation... De toute façon, on parle de langage, puisque la musique est aussi un langage qui permet d'avoir ces conversations par toutes sortes d'autres parades que les mots.
Oui, absolument.
Vous pourrez retrouver Arc Fiction, le projet d'Herman Mehari et Alessandro Lanzani, les 2 et 3 août à Montgardin et Saint-Jean-Saint-Nicolas. Nous allons écouter tout de suite un petit extrait de ce projet avant de repartir vers d'autres horizons avec le projet Valeu a Pena. Thank you. Alors vous venez d'écouter Herman Mehari, Alessandro Lanzoni et leur projet Arc Fiction. Nous allons revenir tout de suite au 5 et 6 août à Gap et l'Aphorie avec le projet de Chloé Breillot et Pierrick Hardy, Valéou Apena, j'espère que je le prononce bien.
Je ne pourrais pas mieux faire, donc je ne pourrais pas vous reprendre, je ne me permettrai pas. Mais c'est un projet dont je veux bien raconter l'histoire parce que là aussi c'est une pépite en fait, c'est ce genre de miracle qu'on rencontre parfois quand on va au concert. Chloé a ouvert la bouche et Pierrick a fait les premiers accords, je me dis... Incroyable, ça, je vais aller les voir après. J'ai été dans un festival de jazz en Normandie qui s'appelle Arch en Jazz en septembre dernier à l'invitation d'Yves Rousseau qui était la semaine dernière dans les Hautes-Alpes pour présenter son solo, un solo qu'on a accompagné, qui est un très très beau moment de musique. Et il m'avait dit, écoute, viens... Il y a une programmation qui ressemble un peu à Chaillol. Et il y avait de très très belles choses. Et dans une petite salle des fêtes, un peu comme celle qu'on a ici, mais dans un horizon, un air beaucoup plus iodé, on va dire, j'ai écouté ce duo. Chloé Breillot est une chanteuse qui, elle, chante la tradition du fado. Pour le coup, voilà, une belle relation entre la poésie populaire et la musique. Elle le fait avec une force, une simplicité. Moi, j'ai pensé à Piaf, en fait, quand je l'ai écouté la première fois. Enfin, c'est-à-dire cette évidence que tout s'aligne et que cette musique s'incarne parfaitement dans cette personne qui a une voix bouleversante et qui accompagne au sens fort du terme Pierrick Hardy, qui est un merveilleux musicien. Il fait partie de ces grands accompagnateurs qui peuvent sertir la voix des chanteuses ou des chanteurs qui l'accompagnent parfaitement. C'est vraiment un sur-mesure extraordinaire. La moindre inflexion de Chloé est traduite instantanément dans la guitare. C'est fascinant. Et c'est très beau, elle chante toute la poésie lusophone, c'est-à-dire pas simplement le Portugal... le fado, qui est cette grande tradition musicale qui a été très marquée par la figure de Amália Rodrigues, notamment, mais aussi les musiques du Brésil. Il y a quelques incursions très belles. Voilà, donc c'est un répertoire, un tour de chant absolument magnifique, bouleversant. Franchement, on en pleurerait si c'était pas si beau et s'il n'y avait pas autant d'espoir porté par le chant de Chloé.
On va tout de suite écouter un petit extrait de ce projet Valéou Apena. Donc vous venez d'écouter un petit extrait de Valeo Apea de Apena, excusez-moi, de Chloé Breillot et Pierrick Hardy. Donc vous retrouverez les 5 et 6 août. Nous allons changer complètement de territoire pour découvrir les noces yiddish de Marine Goldwasser ensemble. Des musiques klezmer, ici je ne m'abuse, Marine Goldwasser a été en résidence.
Oui, absolument. C'est quelqu'un dont on avait présenté le travail avec les concerts du Petit Mishmash qui avait fait un grand succès. Une musique de grande virtuosité, à la fois tragique et joyeuse, enfin ces atmosphères un peu douces amères des musiques yiddish d'Europe centrale, donc toutes ces populations juives d'Europe centrale. Et Marine est une des grandes héritières de cette tradition-là. Son père, qui sera présent avec nous cet été d'ailleurs, est un des metteurs en scène et comédiens en langue yiddish. Donc c'est quelqu'un qui a un grand savoir et Marine aussi, très grande érudite de ces questions-là. Et elle est venue nous voir après avoir porté... la musique du dernier spectacle de Bartabas à Paris, très grand succès aussi, que j'avais vu, qui était admirable, très chagallien, enfin un truc très très beau. Et ça lui a donné une envie d'une chose avec plus d'ampleur que son petit mishmash à 5 musiciens avec elle. Et donc elle a parlé d'un cabaret, elle avait envie d'une forme cabaret. On lui a proposé d'accompagner ce travail-là pendant un an. Finalement, ça sera pendant 3 ans, en production déléguée. C'est-à-dire qu'on a pris en charge tout l'appareil administratif, technique d'une production et de son financement, avec la participation très importante d'une mécène qui a été très touchée par le projet de Marine Goldwasser, les fondations Kinamon et Cinnamon, que je salue, qui ont été déterminantes dans la réalisation de ce projet-là. Et donc, on aura en création 2 soirées autour de ce répertoire des noces yiddish. Alors, elle a travaillé autour des musiques de noces, qui sont ce rituel très caractérisé des traditions klezmer. Il y a beaucoup de gouaille, si on peut dire ça comme ça. Il y a un chanteur-comédien en yiddish qui est extraordinaire. Ce sera très joyeux, très drôle, très impertinent, bouleversant aussi par moments. Et c'est un projet qu'on porte depuis un an et qu'on attend avec beaucoup d'impatience. On a aussi agrégé, on en parlera peut-être tout à l'heure, des ateliers d'initiation au chant, à la danse yiddish. Enfin, il y aura un atelier de cuisine. Alors, on ne fera pas de la gefilte fish parce que c'est trop compliqué. Mais il y aura des choses de toutes dimensions.
Eh bien, beau programme encore une fois. Alors, on va retrouver cette création les 7 et 8 août à Saint-Bonnet-en-Champsaur et la Bâtie-Neuve. On en écoute tout de suite un extrait.
Rumänien ist dort geht, pink vom Deiges weiß man nicht. Fein trinkt man überall, mir verbeizt mit Kaschkawal. Ja, piriririm, piriririram, piriram, piriririririririram. Ay, piriririm, piriririririm, piriririririm, piriririram. Oho!
Alors vous venez d'écouter un extrait du projet de Marine Goldwasser ensemble, les noces yiddish. Nous allons maintenant encore changer de zone géographique pour passer à l'Anatolie et au Kurdistan avec Éléonore Fournio et le projet Neinik.
Oui, alors Éléonore, on avait eu l'occasion de l'entendre dans le trio Samaya l'été dernier. si je me souviens bien, oui, l'été dernier. Trio formidable de polyphonie féminine dans lequel Éléonore tient une place marquante. Et j'avais entendu aussi le solo. Elle joue de la vielle à roue et elle chante en s'accompagnant. Et c'est une des grandes voix françaises, mais très reconnue au Kurdistan, de ces musiques de tradition kurde. Elle a vécu des années là-bas. Elle est complètement immergée, reconnue par les communautés traditionnelles du Kurdistan. Alors le Kurdistan, c'est une aire culturelle qui déborde de... Alors l'Arménie, évidemment, mais l'Irak et la Syrie. Donc c'est quelqu'un qui connaît très bien cette musique-là, qui la défend incroyablement. C'est une voix du Kurdistan, vraiment. Et si vous tapez son nom sur Internet, vous allez voir les millions de vues de quelques-unes de ses chansons pour dire la force de son interprétation. Et moi, j'avais très envie de l'inviter de nouveau. Et elle sort son premier album sur son nom après une dizaine d'années d'un travail très approfondi de centaines de concerts. Et c'est une merveille. Ce disque était absolument bouleversant. Et sa voix est d'une puissance expressive et d'une évidence qui est marquante. Je suis très heureux qu'elle fasse la clôture du festival parce que c'est un peu le pendant aussi du concert d'ouverture. La culture, c'est aussi la culture qu'on se choisit, dans laquelle on peut renaître, où on peut se trouver. Je fais aussi un clin d'œil à Mandy Le Rouge, par exemple, française née à Briançon, qui est devenue une des voix reconnues d'ailleurs des traditions populaires d'Argentine. Elle y est en ce moment pour collecter, pour s'imprégner de nouveau. Donc en fait, on n'est pas assigné à nos résidences culturelles. On peut être né français, se révéler ou au contact d'une culture qui n'est pas la sienne. Donc tout ça pour débattre un peu de la question, de manière un peu superficielle, mais de la question de l'appropriation culturelle. Il y a de grands musiciens japonais qui ont joué mieux que certains Français les traditions musicales françaises, la musique classique de Ravel, Debussy. On est sorti de l'époque où on disait les musiciens français, il n'y a que pour jouer la musique française, on a ce truc pour jouer. Non, en fait, ça a été démontré que non. Question d'amour, il y a peut-être un mystère aussi, mais en tout cas, voilà, moi je suis très touché par ces personnalités. Ici, ce sont des femmes en l'occurrence. Marine Goldwasser, Éléonore Fourniau, on parlait du concert d'ouverture avec Clément Jeanninet. Ce sont des gens qui ont été, qui ont plongé dans des cultures qui n'étaient pas les leurs et qui se sont trouvés. Et qui ont été reconnus aussi pour l'apport qu'elles ont fait à ces cultures.
Et on reste sur cette notion d'ouverture qui va être finalement un peu le fil rouge de ce festival, si ce n'est aussi des autres éditions du festival.
Oui, ouverture et réciprocité. La réciprocité, ça veut dire, ça veut pas dire qu'on reconnaît que tout le monde apporte la même chose, mais que tout le monde apporte quelque chose, que ce soit les artistes ou le public, que ce soit tel musicien venant de telle aire culturelle ou telle autre. On a tous une contribution, une part à donner à ce monde, et c'est bien quand il y a un peu de réciprocité. Voilà.
Nous allons tout de suite écouter la voix de Éléonore Fourniau. On va tout de suite écouter un petit extrait de son projet Nainik.
Thank you. απαραίτητο καιρότερα σαζί. Όμνε να ουαμάσαι και ούτε μπαγέζει με κεβεγκατζέτα χόφι να ναζί. Όμνε να ουαμάσαι και ούτε μπαγέζει με κεβεγκατζέτα χόφι να ναζί.
Alors, vous venez d'écouter un extrait de Neynik, le projet d'Éléonore Fournio, que vous pourrez retrouver les 9 et 10 août à Tallard et Chaillol. Donc, on approche de la clôture du festival. La dernière date sera Souffle 3 de Benjamin Melia et duo Lavao Lapo. On en a parlé tout à l'heure.
Oui, on a eu envie de faire un rebond à la clôture. Le dernier concert à 21h du festival, c'est Neynik, dont on vient de parler. À chaque fois qu'on finit un festival, les gens sont. Pour certains, on fait une traversée avec nous d'un mois ou presque un mois. Et on vit un grand moment parce que les concerts d'ouverture et de clôture sont des moments très fort en général d'une saison. Il y a un bel apéro après, et puis ça se termine dans la nuit, parce que voilà, chacun rentre chez soi, et on se dit, ah c'est fini, cette année on s'est dit, bon, on va faire un petit rebond, un petit, comme un after champêtre, on s'est dit ça, on va faire un after champêtre, donc le dernier souffle dont on a parlé tout à l'heure, et j'ai aussi invité le duo de Manu Théron et de Damien Toumi, qui sont deux grandes voix des musiques occitanes, pour accompagner ce dernier rebond, et après on sortira nos casse-croûtes et on partagera un grand moment tous ensemble pour se dire au revoir, et pas l'année prochaine, parce qu'on reprendra quelques mois après avec les premiers concerts de la saison suivante.
On vous laissera le souffle s'étioler petit à petit pour terminer cette saison. Alors, on a fini pour tout ce qui était concert. Il y a une autre partie de la programmation du festival dont on n'a pas encore parlé, ce sont les pas de côté.
Oui, les pas de côté, c'est toutes ces invitations de formes diverses de profiter de la musique autrement qu'en étant un auditeur à un concert. Alors, ce sont des ateliers d'initiation, de pratique. L'idée étant de dire la musique, on l'a tous en partage en fait. Il y a des musiciens qui sont des musiciens professionnels, c'est-à-dire ils ont dédié leur vie à parfaire leurs gestes et leur maîtrise. Mais on est tous musiciens au fond. On l'aime plus ou moins, mais on a tous une voix, on a tous un sens du rythme. Je donne souvent cette image, mais par exemple si on prend la question de la gastronomie, il y a évidemment des gens qui ont passé leur vie à comprendre ce que c'était qu'un produit, un terroir, qui ont reçu une tradition, qui ont appris les grandes recettes de la tradition française. Et voilà, ils ont inventé leur propre signature, etc. Bon, ça, c'est des grands chefs. Hein. On en a en France de très, très beaux. Mais pour autant, on fait tous la cuisine. On fait tous un peu de cuisine pour... parfois, on essaie de faire un peu mieux que d'habitude parce qu'on reçoit des amis, etc. C'est exactement la même chose avec la musique. Il y a des musiciens qui ont passé leur vie, c'est des grands chefs. Hein. Ils ont passé leur vie à faire ça. Et puis, nous, on chante sous notre douche, on sifflote quelque chose en voiture. Et c'est très important de reconnaître que la musique est aussi à cet endroit-là. Donc, les pas de côté, c'est tout ça. C'est de dire, recueillons toutes les possibilités qu'on nous, on a identifiées de, voilà, un atelier de pratique, un atelier d'initiation. Il y a aussi des rencontres avec les artistes qui nous parlent de leur travail. On peut les interroger, on peut, après un concert, avoir des... Et puis il y a cette journée à l'Ourthe de Bénévent, donc ce jardin intergénérationnel avec lequel on collabore depuis quelques années, qui va recueillir cette belle proposition de noces yiddish, mais dans laquelle on a injecté aussi des ateliers d'initiation de la danse et du chant yiddish, mais aussi un atelier de cuisine participatif pour ensuite savourer tous ensemble une recette qui a été proposée d'ailleurs par Marine Goldwasser, parmi les nombreuses recettes de la tradition culinaire yiddish qui est assez savoureuse. Voilà, donc c'était l'idée de donner un peu plus que le temps du concert, et ce sont des moments très simples, assez joyeux et qui fonctionnent très bien.
Et pourquoi avoir intitulé ceci « Pas de côté » ici ? J'ai l'impression qu'il y avait presque une notion d'aventure, de transgression, je ne sais pas.
Oui, c'est-à-dire de dire « un pas de côté », c'est le petit mouvement qu'on se donne pour se dire « allez, si je sortais un peu de mon habitude, et si mon habitude c'est « moi je ne suis pas musicien, je n'ai pas l'oreille musicale, j'ose pas », etc. » C'est de dire « on fait un petit pas de côté », puis on se dit « après tout, même si je pense que ça, peut-être que ça vaut le coup de le regarder autrement », et puis souvent les gens se disent en fait c'était super, je savais pas que je pouvais faire ça, de chanter en collectif, c'était génial, de sentir ma voix, ou d'apprendre un pas de danse yiddish, ça fait pas de vous un danseur professionnel, mais c'est passé par votre corps, quoi, vous l'avez appréhendé de manière plus charnelle, on va dire.
D'ailleurs, côté au pluriel, puisque ces pas de côté pourront être multiples aussi.
Oui, on avait presque envie de mettre un S des pas de tous les côtés, c'est ça.
Alors malheureusement, on ne va pas pouvoir s'étendre trop sur le sujet, mais on va au moins vous donner des informations pratiques pour que vous puissiez aussi réserver pour ces temps de médiation. Alors comment on peut s'inscrire ?
Alors tout ça est très précisément détaillé sur le site internet maintenant à jour, www.festivaldechaillol.com. Un certain nombre de propositions sont limitées en termes de nombre de personnes. Je pense notamment à Souffle, parce qu'on voulait garantir un peu les conditions, la qualité de l'expérience, donc on ne peut pas accueillir 300 personnes pour un moment comme ça. C'est en pleine nature, c'est gratuit, mais il faut quand même réserver. Et donc, c'est pour ça que vous verrez indiquer, pour ces propositions notamment, que le lieu précis où se déroulent ces propositions n'est dévoilé qu'aux personnes qui se sont inscrites. Voilà, c'est un petit, la part un peu secrète de la programmation. Tout le reste est parfaitement indiqué à des tarifs qui restent toujours très très accessibles. On a conservé cette tarification consciente qui avait été proposée en sortie de Covid. Donc je rappelle le principe, c'est vous décidez vous-même du prix que vous voulez mettre pour accéder au concert, entre 5, 8, 12 et 20 euros, donc 4 tarifs différents. Mais il n'y a pas de condition d'accès, c'est vraiment vous qui décidez si voilà, vous pouvez mettre 5, 8, 12 ou 20. Et l'idée, c'est de soutenir au mieux l'espace culturel de Chaillol tout en étant le plus juste possible par rapport à vos moyens.
Y a-t-il aussi possibilité de réserver dans les offices de tourisme ?
Il y a aussi, absolument, vous faites bien de le rappeler, dans les offices de tourisme des vallées du Champsaur, Val-Gaudemar, Buëch-d'Évoluy, Talar-Barcelonnette, enfin Gap, Vallée de l'Avance, les offices de tourisme sont partenaires, tous. Et puis il y a une billetterie en physique, une demi-heure avant les concerts, mais c'est peu prudent de se pointer au concert sans avoir son billet, parce que c'est des petites jauges, ça fait aussi partie de ce territoire. On a des petits lieux qui sont absolument très inspirants, avec des qualités acoustiques merveilleuses, mais qui vont entre 80 et 200 places. Donc ça veut dire que les places partent vite.
Oui, donc aussi une forme d'intimité avec les artistes qui sera garantie aux spectateurs. Alors on va conclure cette émission spéciale. Alors le festival, on l'a dit, démarrera le 19 juillet prochain à Saint-Bonnet en Champsaur avec le projet Soku, donc le projet de Clément Janinet et Adama Sidibé. Vous pourrez profiter des 28 concerts que compte le festival jusqu'au 11 août 2024 à tarif conscient, nous venons de le rappeler. Donc vous pourrez retrouver toutes les informations, comme nous le disions, sur le site de l'espace culturel de Chaillol, www.festivaldechaillol.com. Merci beaucoup Michaël Lian de nous avoir accordé cet entretien et merci chères auditrices et auditeurs pour votre écoute attentive.
Merci beaucoup, c'est super.